de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta, aujourd'hui le 29 septembre 2019. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, voici le journal d'aujourd'hui. On commence par le titre « Les pays nordiques, un partenaire important de l'Indonésie ». L'ambassadeur de Cuba veut renforcer la coopération culturelle avec l'Indonésie. Vice-président Yusuf Kalla, l'Indonésie joue un rôle important dans la sauvegarde de la terre. La crise mondiale des prix du café, le vice-président de la République d'Indonésie a exprimé l'action commune des pays producteurs de café. Les entrepreneurs apprécient positivement le salon mis pour le développement du marché. Chers auditeurs, écoutons les journaux complets. Les pays nordiques, à savoir le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède, sont des partenaires importants pour l'Indonésie. La coopération bilatérale entre les pays nordiques et l'Indonésie, notamment dans les domaines économiques et du développement, a augmenté de manière significative. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Planification du Développement National, au chef de l'Agence indonésienne des planifications du développement, ou un Indonésien Bappenas, Bambang Brojonegoro, lors de la soirée nordique organisée dans le cadre des journées nationales danoises, finlandaises, norvégiennes et suédoises à Jakarta le jeudi dernier. Selon Bambang, le volume des échanges de l'Indonésie et des pays nordiques a continué d'augmenter au cours des deux dernières années. Il espère également qu'il y aura plus d'investissements directs étrangers des quatre pays nordiques en Indonésie. Notre volume des transactions combinées a continué d'augmenter au cours des deux dernières années. En 2018, nous avons enregistré un volume des échanges de 2,2 milliards de dollars américains. Dans le domaine des investissements directs étrangers, j'espère pouvoir rechercher davantage de flux de capitaux en provenance des quatre pays. En 2018, la valeur combinée des investissements étrangers des pays nordiques sera de 39,7 milliards de dollars américains. J'espère que ce nombre pourra être doublé et placer la combinaison de plusieurs investissements parmi les 10 principales sources d'investissements étrangers en Indonésie. Bambang Brojonegoro a également salué le nombre croissant de touristes des pays nordiques qui visitent en Indonésie. Il a fait appel aux touristes danoises, finlandais, norvégiens et suédoises, de visiter aussi les 10 autres nouvelles destinations touristiques. L'ambassadrice de Cuba en Indonésie, Nircia Castro-Jefara, a déclaré qu'elle souhaitait continuer à développer les échanges culturels avec l'Indonésie afin de renforcer les relations entre les peuples des deux pays. Cela a été dit par l'ambassadrice Nircia après le récital de piano qui a eu lieu récemment à la Bibliothèque nationale de Jakarta en commémoration du 60e anniversaire de la visite du révolutionnaire cubain Ernesto Che Guevara en Indonésie. Le récital de piano a présenté la performance en solo de la musicienne cubaine Lian Vega Serrano, qui avait beaucoup d'expérience dans la participation aux orchestres cubains et mexicains. Nircia a déclaré que cet événement commémoratif était si important et symbolique car il commémorait la visite de Che Guevara et sa coopération culturelle dans le domaine de la culture. Le vice-président Yusuf Kalla a souligné que l'Indonésie joue un rôle important dans les efforts de sauvetage de la planète en devenant un pays absorbant le carbone et en maintenant le réchauffement de la planète. Il a été présenté par Yusuf Kalla lors d'un forum d'affaires organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Comité des États-Unis au bureau du consulat général de la République d'Indonésie à New York, États-Unis, récemment. Yusuf Kalla, dans un communiqué de presse reçu jeudi à Jakarta, a déclaré que l'Indonésie joue un rôle important dans la sauvegarde de la planète et de l'avenir de la vie. Par conséquent, l'Indonésie ne reçoit pas un traitement discriminatoire en tant que pays qui ne prête pas attention à l'environnement dans son développement. Avec un potentiel de 120 millions d'hectares de forêts tropicales, de mangroves et de tourbières, l'Indonésie possède une position stratégique en tant que pays leader dans la réduction des émissions de carbone. Encouragée par la baisse des prix du café sur le marché international, l'Indonésie, représentée par le vice-président Yusuf Kalla, ainsi que par le chef d'État et d'autres hauts responsables de pays producteurs de café, a discuté de la formulation de stratégies et de mesures à prendre pour surmonter la crise des prix du café mondial actuel. La discussion intitulée « Action commune pour surmonter la crise du prix du café et parvenir à une production durable de café » s'est déroulée en mars de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York récemment. Les professionnels du tourisme et du MIS, ou Meeting, Incentive, Convention et Exhibition, apprécient positivement le salon MIS ou IT et CMA car il est très efficace pour développer des marchés. En outre, le salon IT et CMA, qui se tient chaque année, peut être un moteur de compétitivité pour améliorer en permanence la qualité des produits et des services aux acheteurs qui changent toujours avec les besoins du marché. Le directeur général de Bali Laser, Putu Juarez Robin Putra, a déclaré récemment à Bangkok que sa société participait toujours au Salon international du tourisme car il permet de trouver et de développer efficacement son marché. De plus, en prenant part à des expositions, l'entreprise peut absorber ce que le marché demande maintenant et dans le futur. Il a déclaré qu'un grand nombre d'acheteurs potentiels d'Europe, d'Asie et du Pacifique qui sont venus et ont exprimé leur intérêt pour visiter Bali. C'est tous les journaux d'aujourd'hui.
Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa. Pancasila. Di prasetya ada segerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, lagu yang setia berjiwa Pancasila. Kita setia dan sekerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara.
Bonsoir à tous. Voici la mise au point de la semaine, dont le titre est « On corrigera le code pénal ». Le gouvernement et la Chambre des représentants, ou en indonésien « Dewan Perwakilan Rakyat » ou abrégé en « DPR », sont d'accord de déléguer la discussion du projet de code pénal, ou en indonésien « Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana » abrégé en « RKUHP » au DPR de période de 2019 à 2024. On a fait ce délai pour répondre aux aspirations du public des articles qu'il considérait controversés. Le président du DPR, Bambang Susatyo, au complexe du Parlement indonésien à Senayan, Jakarta, mercredi dernier, a déclaré que le DPR corrigerait les articles qui préoccupaient le public. Peut-être que même s'il pouvait déposer des articles, il les laisserait tomber. On estime qu'un certain nombre d'articles du RKUHP menacent la liberté d'expression, la criminalisation de la presse et une trop grande ingérence dans la sphère privée. Avec ces articles en place, divers groupes de personnes ont soulevé leurs protestations et leurs objections. La Chambre des représentants indonésienne a également décidé de retarder la discussion sur le RKUHP. Taufiqul Hadi, membre de la commission 3 de la Chambre des représentants, a déclaré que toutes les factions de DPR et le gouvernement avaient accepté de discuter du RKUHP au cours de la prochaine période. Basé sur la révision de la loi d'amendement législatif, que le DPR vient d'adopter, on peut poursuivre la discussion de la loi incomplète de la période précédente aux prochaines périodes avec l'approbation de toutes les factions. Donc on n'a pas besoin de répéter la discussion sur RKUHP depuis le début. Le ministre de la Loi et des Droits de l'Homme, Yasona Lawli, a confirmé la même chose, ainsi que le président Joko Widodo a également souligné qu'il déciderait le RKUHP dans la prochaine période. Yasona a déclaré que le gouvernement socialiserait le RKUHP au public avant la ratification. Il a intensifié la socialisation afin que le public ait une compréhension globale liée au changement du RKUHP. Il a souligné que le gouvernement avait également ouvert une salle de discussion pour discuter d'articles controversés. Le vice-président Yusuf Kala est d'accord que les articles de RKUHP avaient été consultés avec le public. De plus, il existe encore un certain nombre d'articles que la communauté considérait inappropriés, comme la question de l'adultère, l'insulte au président et des articles menaçant la liberté d'expression. Yusuf Kala espère toujours que le RKUHP pourra être ratifié et devenir une référence de droit pénal en Indonésie. Tandis que le vice-président de la Chambre des représentants, Fahri Hamzah, espère que toutes les parties donneront la priorité au dialogue sur les articles qu'on les considère controversés. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 29 septembre. On commence par le 29 septembre 1954, la fondation de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Le CERN, ou l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est le plus grand complexe de laboratoires d'accélération de particules du monde, situé à la frontière franco-suisse, juste à l'ouest de Genève. La convention qui a approuvé cette organisation a été signée le 29 septembre 1954. Sur les 12 membres, compte actuellement 21 pays membres. Israël est le premier et le seul pays non européen à avoir obtenu la qualité de membre à part entière. Le CERN, ou l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, a pour principal but de fournir l'accélération des particules nécessaires à la recherche et à de nombreuses expériences de physique des hautes énergies menées par une coopération internationale. Le 29 septembre 1957, la catastrophe de Kistim. La catastrophe de Kistim était un incident de contamination radioactive survenu le 29 septembre 1957 à Mayak, un site de production de plutonium en Russie aux armes nucléaires et à l'usine de retraitement du combustible nucléaire de l'Union soviétique. Cet incident a été mesuré comme une catastrophe de niveau 6 sur l'échelle internationale des événements nucléaires, ce qui en fait le troisième incident nucléaire le plus grave derrière la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi et de Tchernobyl. L'incident a eu lieu dans la ville d'Oziorsk, l'oblast de Chelyabinsk, une ville fermée construite autour de l'usine de Maya. On dissipe des particules chaudes sur plus de 20 000 milles carrés où 270 000 personnes au moins habitaient et 300 morts directs parmi les villageois. La suite, le tremblement de terre au Samoa, le 29 septembre 2009. Le séisme survenu au Samoa, d'une ampleur de 8,3 Richter, s'est produit dans la région des îles Samoa, le 29 septembre 2009, à 6:48 heures locales. Le séisme a déclenché trois vagues de tsunamis distinctes, dont la plus grande a atteint 1,6 mètres au-dessus du niveau de la mer. Une élévation du niveau de la mer de 76 mm a été enregistrée près de l'épicentre, selon le centre d'alerte au tsunami du Pacifique situé à plage de Ewa à Hawaï. Ce tremblement de terre s'est produit près de la zone de subduction Kermadec Tonga de la ceinture de feu du Pacifique, où la tectonique des plaques sur la croûte terrestre se rejoignent, où le séisme et l'activité volcanique sont fréquents. 189 personnes ont été tuées et des centaines blessées. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Denganmu bagai terbang melayang, kita berdua. bersama.
Voici mon Indonésie intitulée « Koi cherche un nouveau président pour remplacer Erick Thohir ». Le Comité olympique indonésien, ou abrégé en COI, cherche un nouveau président. L'enregistrement des candidatures pour l'élection des futurs présidents de la période de COI 2019 à 2023 est ouverte du 27 septembre au 6 octobre 2019. La gestion du mandat de COI pour la période 2015 à 2019 sous la direction d'Erick Thohir a pratiquement disparu. Qu'on le veuille ou non, COI doit trouver un nouveau président. Erick a clôturé l'opportunité de réanimer les concours des candidats à la présidence de COI en dirigeant l'équipe de sélection et d'élection des candidats. Il était aidé par le secrétaire Ellen Delima et de 5 membres, Basiruddin, Arsyad Ahmadin, Fuli Aswar, Ekelik Wirawan Widodo et Wijaya Mituna. Il commence à travailler du 27 septembre, date à laquelle a été entamé le choix des futurs présidents. Dans le même temps, le congrès spécial du COI, qui se déroulait à Jakarta mercredi, a décidé que le congrès de l'élection du président général du COI 2019 à 2023 aurait lieu le 9 octobre. Cela a été dit par un membre du TPP de l'élection du président général de COI, Arsyad Ahmadin, à FX Sudirman aux médias mercredi dernier. Pour ceux qui veulent avancer, le TPP a également défini un certain nombre d'exigences clés pour ajuster le paramètre des statuts et règlements. Y compris, chaque candidat doit avoir le soutien de 30 électeurs sur 126 votes. Les détails, conformément aux nouveaux statuts et règlements, chaque branche du sport olympique dispose de 3 droits de vote, tandis que les non-olympiens ne disposent que d'une voix. Il y a actuellement 33 sports olympiques. En outre, il y a un certain nombre d'autres conditions, telles que la participation à des organisations et activités sportives pendant au moins 5 ans au niveau national et international. Tandis que le président général de COI, qui s'est déjà déclaré, ira de l'avant, à savoir Raja Sabta Oktohari. Il a déclaré mardi dernier à l'hôtel Mulia de Senayan, en présence de plusieurs représentants sportifs et secrétaires du ministère de la Jeunesse et des Sports, Gatot S. Dewa Broto, et du représentant du Comité national des sports indonésiens, Ade Lukman. Il est également président de la PB, l'Association indonésienne du sport de vélo. L'une des missions est que l'Indonésie a été choisie pour accueillir les Jeux olympiques de 2032. Lors d'une conférence de presse avec médias, Oktohari a exprimé sa gratitude pour avoir récemment annoncé sa candidature à la présidence du COI. Okto, le surnom proche de Raja Sabta Oktohari, a déclaré que son désir de devenir président du COI était une forme de sa grande responsabilité en tant que joueur du sport. Il veut que le drapeau rouge et blanc vole de plus en plus sur la scène mondiale. Il a dit qu'il a beaucoup de responsabilités. Bientôt, il y aura les Jeux asiatiques du Sud-Est 2019 et les qualifications olympiques de 2020. Le moment est bien choisi pour réunir sympathisants et électeurs aux Jeux olympiques, surtout quand il est annoncé plus tard à Paris en 2024. Donc, il n'y avait pas de temps pour se détendre, car le temps était compté. Le nom Octo est déjà familier dans le monde du sport. Il a également occupé brièvement plusieurs postes importants dans le secteur du sport. Outre son rôle de promoteur de la boxe, Octo a également été chef de mission des Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016 et président des Jeux paralympiques asiatiques de 2018 à Jakarta. C'est tout mon Indonésie.
Saat aku sendiri, hanya kau yang mengerti. Dunia tak pahami sedalam yang kau teliti. Kau melihat aku bagai nirmala, tak pernah ada yang bisa. Ada yang bisa kau hiraukan sisi gelap hidupku. Tak ada yang bisa, hanya kamu yang bisa meredamku. Tak ada yang bisa, hanya kamu yang bisa. Dunia tak pahami, hanya kau yang mengerti. Kau melihat aku bagai nirmala, tak pernah ada yang bisa, tak pernah ada yang bisa. Kau hiraukan sisi gelap hidupku, tak pernah ada yang bisa. Hanya kamu yang bisa meredamku. Dunia tak pahami, tak ada yang pahami. Hanya kau yang mengerti. Kau melihat aku bagai nirmala, tak pernah ada yang bisa. Ada yang bisa kau hiraukan sisi gelap hidupku. Tak pernah ada yang bisa, hanya kamu yang bisa meredamku.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter la tradition de l'aumône de la terre, ou en indonésien, tradisi sedekah bumi, au village de Cibuntu, Cirebon, Java de l'Ouest. L'Indonésie possède des terres fertiles et diverses richesses naturelles. Avec l'abondance de la richesse, certaines personnes le remercient en organisant une variété de cérémonies et de fêtes traditionnelles. L'une d'elles a été réalisée par des habitants de la région de Cirebon, Java de l'Ouest, plus précisément au village de Cibuntu. Le village, situé à 30 km du centre de Cirebon, a une tradition d'expression de gratitude, c'est la tradition de l'aumône de la terre. Chers auditeurs, la tradition de l'aumône de la terre au village de Cibuntu est une tradition héréditaire des ancêtres de la communauté du village de Cibuntu. La communauté du village de Cibuntu, sous-district de Pasawahan, régence de Kuningan, organise cette tradition régulière depuis 1820. Cette tradition a lieu une fois par an avant la saison des semailles, juste avant l'arrivée de la saison des pluies. Habituellement, cet événement a lieu entre septembre et octobre. Chers auditeurs, la tradition de l'aumône de la terre, selon la communauté du village de Cibuntu, est une forme d'action de grâce de la communauté au Dieu Tout-Puissant pour la moisson qu'on a obtenue. Cette tradition a également pour but de demander à Dieu que les cultures agricoles, en particulier le riz, du peuple de Cibuntu, au cours des prochaines saisons de semis, deviendront plus fertiles et que les rendements seront bien meilleurs. De plus, cette tradition est également une préservation de la culture et de l'identité nationale. Bien que la procession d'aumône de la terre soit simple, elle est toujours animée et attire de nombreux visiteurs. Chers auditeurs, avant de faire cette tradition héréditaire, les habitants du village de Cibuntu sont obligés de nettoyer les sources d'eau situées au-dessus du village. La purification de ces sources d'eau signifie que toute vie sur terre provient de l'eau. Elles doivent donc préserver la beauté et la propreté des sources d'eau avant qu'elles puissent continuer à vivre mieux. Après avoir nettoyé les sources d'eau, certains villageois ont massacré une chèvre qu'ils cuisinaient plus tard comme plat lors de cette fête traditionnelle, tandis que les autres résidents préparent des assiettes à partir de feuilles de cocotisé appelées takir. C'est aussi l'utilisation de tout ce qui a été fourni par la nature. En outre, il ne faut pas oublier dans cette tradition l'existence d'un calèche qui emmènera la chef du village sur le lieu de l'événement. Des centaines de villageois, jeunes et vieux, vont de pair, suivant la calèche embarquée par le chef du village, au rythme typique appelé Kentri. Ils portaient tous les vêtements traditionnels sundanais, les femmes portaient des tissus et des kebayas, tandis que les hommes portaient des chemises en coco, à savoir des chemises pour hommes musulmans. Dans le défilé, il y avait aussi un groupe de danseurs composé de jeunes femmes. Ils apportent des aliments préparés à l'avance, tels que divers types de plats d'accompagnement de leur maison, du riz et des fruits de leurs propres plantes. Et ce qui est unique, toute la nourriture est servie dans des assiettes à feuilles de bananier. Cette tradition a débuté par la prière et la remarque de plusieurs responsables du village de Cibuntu. Ensuite, le régent Kuningan et le chef du village ont versé de l'eau de kahuripan, ou en français de l'eau de vie, sur des semences de riz qui sera plantée à l'avenir. Chers auditeurs, la tradition de l'aumône de la terre du village de Cibuntu reflète l'harmonie, la coopération mutuelle et la solidarité.
Malam ini ku tak bisa tidur, memikirkan kamu yang di sana. Apakah kau baik-baik saja? Tuhan, ku hanya ingin tahu kabarnya. Di bawah bulan purnama, kita pernah berjanji bersama sehidup semati. Temani aku di sini, namun apa daya tanganku tak sampai menggapaimu. Takdir tak berpihak padaku untuk mempertahankanmu. Semoga kau bahagia hidup bersamanya.
Harusnya ku bisa sadar diri, aku sudah punya kekasih hati. Tapi tak ada salahnya bila ku merasakan rindu, rindu kamu yang pernah jadi milikku.
Di bawah bulan purnama, kita pernah berjanji bersama sehidup semati. Temani aku di sini, namun apa daya tanganku tak sampai menggapaimu. Takdir tak berpihak padaku untuk mempertahankanmu. Semoga kau bahagia hidup bersama.
Semoga kau bahagia hidup bersamanya.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia avec l'Indonésie en couleur. Dans cette édition, je parlerai du robot volant d'UGM qui a remporté le concours d'UAV en Turquie. Le robot Aswin Kara de Gajah Mada a remporté la troisième place du concours de Technofest Fighter Vehicle Aérien sans pilote, ou en anglais, Unmanned Aerial Vehicle, ou abrégé en UAV, qui s'est déroulé du 10 au 14 septembre 2019 à Istanbul, en Turquie. Selon le chef de la créativité des étudiants de l'Université Gajah Mada, Suherman, Aswin Kara est un robot volant se représentant sous la forme d'une catégorie à voilure fixe pour drone. Ce robot est configuré en détail et équipé par une technologie d'intelligence artificielle. Ce robot est l'œuvre de l'équipe de Gajah Mada, Flying Object Research Center, ou abrégé en Gamma Force. Suherman a apprécié les réalisations de l'équipe de Gamma Force dans la compétition d'UAV en Turquie. L'équipe peut concourir au maximum et compléter les différents défis donnés. Suherman a déclaré que même l'équipe pourrait remporter la troisième place, ce qui a fait la fierté de l'UGM et de l'Indonésie sur la scène mondiale. Il a dit qu'il était reconnaissant car les réalisations de cette année étaient mieux que celles de l'année dernière. Cette réalisation est le fruit du travail acharné de l'équipe d'étudiants et du soutien des professeurs, des facultés et des universités. Avant de participer à la compétition en Turquie, le robot volant Aswin Kara doit participer à une sélection avec 280 équipes d'autres pays. En 2017, dans la même compétition, l'avion sans pilote du GM par l'équipe Gamma Force a réussi à remporter la troisième place du concours des avions sans pilote. Le drone fabriqué par l'équipe UGM Gamma Force, on l'appelle Rasayana. Dans ce concours, Rasayana a concouru pour la catégorie à voilure fixe. Auparavant, les étudiants de la faculté d'ingénierie de l'Université Gajah Mada avait été récompensé au concours international Staden Formula Japan 2019. Voilà l'édition de l'Indonésie en couleur, dont le thème est le robot volant d'UGM a remporté le concours d'UAV en Turquie.
Yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan. Berakhir lewat bunga seluruh cinta. Terjaga selamat tinggal.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sous la fréquence de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web www.voinews.id. La rubrique suivante, écoutons les informations musicales. Salut tout le monde, voici le magazine musical et dans cette édition, je vous donne une chanson pop indonésienne intitulée « Terlalu Dalam » ou en français « Trop profonde » chantée par The Massive. La chanson dont le titre est « Terlalu Dalam » a été publiée par The Massive le 6 septembre 2019. Cette chanson parle d'une relation qu'on ne peut jamais continuer. Même si on a déjà des sentiments profonds, on devrait donc essayer de la laisser partir. Créateur de la chanson et chanteur de Massive, Rian a créé cette chanson après avoir entendu verser le cœur d'un ami proche. Bon, chers auditeurs, voici Terlalu Dalam, ou en français Trop profonde, chanté par The Massive. Bonne écoute!
Hari bahagiamu kan datang menjelang. Kau dan dia selamanya menyatu. Engkau memberi ruang, aku masuk ke dalam dirimu yang telah berdua. Aku takut terjatuh, jatuh terlalu dalam.
Voice of Indonesia.
Aku terlahir di dunia ini bukan untuk jadi seorang pecundang.
Memasuki kehidupanmu yang telah berdua, namun semua ini takkan membuatku menyerah begitu saja. Aku terlahir di
Voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3,5 kHz et sur le site web de www.voice.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.